15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission Santé et Bien-être, une émission que nous avons baptisée Sans Rendez-vous parce que chez nous, pas besoin de réserver une place, la porte est ouverte, vous venez quand vous voulez. Tous les jours, nous répondons à vos interrogations, idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo. Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout où nous allons parler de tous les sujets sans tabou, c'est sur Europe 1. Il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes généraliste, je vous présente et donc aujourd'hui, vous prenez soin, ici à Europe 1, du lundi au vendredi, de la santé des auditeurs d'Europe 1. Alors, au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré au cancer pédiatrique. Et oui, le mois de septembre, c'est le mois de mobilisation contre les cancers de l'enfant. Avec notre invité, le docteur Dominique Valto-Couané, chef du département cancérologie de l'enfant et de l'adolescent à l'Institut Gustave Roussy à Paris, nous ferons le point sur les avancées récentes et surtout sur les enjeux de la recherche pour soigner encore plus d'enfants à l'avenir. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler de la cigarette électronique et de cette mystérieuse maladie pulmonaire chez certains vapoteurs américains. Les utilisateurs en France courent-ils réellement un risque? Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, on va parler aujourd'hui du bâillement. Pourquoi bâille-t-on parfois à s'en décrocher la mâchoire et pourquoi est-ce si contagieux d'ailleurs? Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue aujourd'hui. Il sera question de la sexualité au fil des ans et des attentes parfois un peu différente sur le plan sexuel quand on vieillit. Mais tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, on écoute la première question, c'est celle de Hélène, 31 ans, on l'écoute.
Oui, bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Je me permets de vous appeler parce que j'ai une petite question. Je suis actuellement enceinte de 2 mois et j'ai déjà pris 5 kilos. Alors je vais voir avec vous si c'était grave ou pas. Quelle était la prise de poids idéale pendant tout le long de ma grossesse? S'il fallait que je fasse un petit régime ou si c'était normal? Voilà, merci beaucoup pour votre aide, au revoir.
J'ai fait, parce que j'ai entendu régime et grossesse, ouais. Pour moi ça va pas du tout ensemble. Mais Jimmy, quand même, la prise de poids pendant la grossesse, c'est une bonne question. Hein. Elle dit qu'elle a déjà pris 5 kilos en très peu de temps. Est-ce qu'il y a vraiment finalement une prise de poids idéale? On dit parfois 1 kilo par mois pendant 9 mois,
ouais,
c'est ça?
1 kilo par mois, c'est plutôt faux. Ça donne un repère, mais il est faux, donc il sert strictement à rien. En revanche, quand j'entends l'auditrice, au premier trimestre, on n'est pas trop censé prendre de poids puisque les besoins augmentent au fur et à mesure des mois qui passent. Et donc, premier trimestre, normalement, on ne doit pas prendre de poids. Donc attention. Et donc, ça dépend en fait la prise de poids du poids initial. Il est évident que si vous avez un poids plutôt normal, vous pouvez prendre un peu plus de poids que si vous êtes déjà en surpoids, voire en obésité.
Ah oui, alors si on prend, donc c'est entre 7 et 11 kilos, 7 et 12 kilos, enfin c'est ça, il y a quand même une moyenne, une fourchette.
Exactement. Alors si vous avez un poids, en fait on considère en fonction de votre IMC, l'indice de masse corporelle. Si vous avez un IMC qui est normal, c'est-à-dire jusqu'à 25, vous pouvez prendre entre 11 et 16 kilos.
D'accord, bon, ça va, là, ça nous laisse quand même une petite marge.
Peu de marge. Ouais. Si vous êtes en surpoids, c'est-à-dire jusqu'à un IMC à 30, donc entre 25 et 30, en revanche vous pouvez prendre entre 7 et 11 kilos seulement.
Ah oui, alors là c'est pas beaucoup.
Et par contre, au-delà, lorsque vous êtes en obésité, voire en obésité très importante, il faut être en sous de 7 kilos.
Ah oui.
Donc ça dépend vraiment du poids de départ. Et puis, même chose, si vous avez
des femmes très en surpoids qui finalement perdent du poids pendant la grossesse. Alors, parce qu'elles ont par exemple un diabète gestationnel bien géré. Elles ne prennent quasiment rien.
C'est assez difficile en règle générale. Elles peuvent très peu prendre de poids puisqu'il faut un rééquilibrage alimentaire. Mais si par exemple vous attendez des jumeaux, évidemment vous pouvez prendre plus. Et là vous pouvez prendre jusqu'à 20 kilos sans pour autant que ce soit anormal.
Et si on prend trop de poids pendant la grossesse, il peut y avoir des complications éventuelles?
Oui, c'est pas juste une histoire d'esthétique, parce qu'on pourrait dire, mais après tout, c'est le corps des femmes, elles font ce qu'elles veulent. Mais non, il y a des vraies complications, à la fois pour la maman et pour le bébé. Pour la maman, on les connaît très bien, c'est évidemment le diabète gestationnel, une hypertension artérielle, un risque de saignement plus important dans le postpartum, l'hémorragie du postpartum, et puis aussi, on fait plus de césariennes lorsqu'on est, on est obèse, qu'on prend du poids. Chez l'enfant, il peut y avoir aussi de graves complications. L'enfant peut avoir des malformations, ce qu'on appelle une dystocie des épaules liée à un bébé qui serait trop gros. Et puis, il y a aussi un truc un peu nouveau, on appelle ça la programmation fœtale. C'est l'épigénétique. En gros, ce que vous mangez pendant votre grossesse aura un impact sur les gènes et l'ADN de votre enfant. Donc, globalement, prendre trop de poids, c'est vraiment pas bon.
Mais on se met pas non plus au régime tout seul,
non.
Toute seule.
Consultation diététique, ouais, on fait relais avec la sage-femme, le gynécologue, et à ce moment-là, on arrive à être pris en charge.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, on va passer à la deuxième question. Cette fois, c'est Brigitte, 53 ans. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur. Voilà, j'aimerais vous poser une question. Je suis gardienne et j'en profite tous les midis durant ma pause pour faire la sieste. Parfois une heure, ça me fait du bien, mais j'aimerais savoir s'il y a une durée idéale pour la sieste et s'il faut la faire tous les jours. Merci beaucoup.
Alors, la sieste, est-ce qu'il faut la faire tous les jours? Est-ce qu'il y a une durée vraiment idéale, finalement?
Alors, la sieste, c'est pas tous les jours, sauf à la primaire, à la maternelle, plutôt.
Oui, c'est quand on est tout petit.
Nous,
quoi.
C'est un peu compliqué, mais globalement, la sieste, il faut pas dépasser 20 minutes. Il faut éviter de rentrer dans un sommeil plus profond, parce qu'à partir de ce moment-là, le réveil est plus difficile et on perd le bénéfice, finalement, de la sieste. Donc, une sieste courte, 20 minutes maximum, vous permet de recharger réellement les batteries, même s'il faut être honnête, le réveil est un peu difficile, mais derrière, vous serez plus performant, vous serez moins fatigué, moins stressé, et finalement, on va le voir, en meilleure santé.
Alors justement, en meilleure santé, ça veut dire quoi? Il faut la faire combien de fois par semaine, tous les jours par exemple? Et ça fait quoi sur le corps?
Alors, une étude récente montre qu'il faut la faire deux fois par semaine. Une étude plutôt sérieuse, bon, pour laquelle on ne va pas non plus tirer de grandes conclusions, mais on s'est rendu compte. Chez 3400 volontaires de 35 à 75 ans, on a regardé ceux qui faisaient la sieste deux fois par semaine, pas très longtemps. On s'est rendu compte qu'ils faisaient deux fois moins d'infarctus et d'AVC. Donc finalement, faire une sieste ferait que vous serez en meilleure santé, moins de stress, moins d'angoisse, moins de pathologies cardiovasculaires et donc moins de mortalité.
Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Brigitte qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas, nous y répondrons dès que possible. Europe 1. Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler des risques ou pas de la cigarette électronique. Après des décès de vapoteurs américains, il devrait rassurer les Français qui utilisent ce dispositif pour arrêter de fumer. Et puis, on accueillera aussi notre invité du jour, le docteur Dominique Valto-Couenet, avec elle, on va faire le point sur la recherche en matière de cancer pédiatrique. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre nouvelle émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le docteur Dominique Valto-Couenet, avec qui on parle aujourd'hui des cancers de l'enfant. C'est le moment pour le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors Jimmy, je crois que vous vouliez faire un point aujourd'hui sur la cigarette électronique. D'abord, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs décès de vapoteurs aux États-Unis ces derniers mois. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas?
Oui, en fait, il y a une épidémie de pneumopathie lipidique, donc une pneumopathie, une infection pulmonaire plutôt sévère, chez des sujets jeunes qui se retrouvaient globalement à avoir des poumons de personnes âgées de 75 ans en ayant fumé la cigarette électronique. Et certains sont décédés à tel point qu'on s'est dit, est-ce que finalement la cigarette électronique ne serait pas dangereuse?
Et alors, est-ce qu'elle est dangereuse? Là-bas, ça, on a prouvé qu'elle était dangereuse?
Eh bien non, finalement, ce qui a été dangereux, l'administration du médicament américaine s'est rendu compte que ceux qui étaient décédés ou qui avaient les pneumopathies graves avaient rajouté des substances dedans.
Ah,
et ils ont
oui.
retrouvé un dosage élevé d'acétate de vitamine E. Donc la vitamine E, quand on en mange ou qu'on en boit, il n'y a pas de problème. Mais en revanche, lorsqu'on l'inhale, on sait que finalement, il y a des complications et surtout que ça a été rajouté dans le but de rajouter du cannabis, donc du THC. Et finalement, les gens sont morts ou ont fait des pneumopathies graves car ils ont rajouté
ils
dans
ont
leur cigarette électronique
leur liquide, en fait,
exactement,
c'est ça.
Un mélange huileux comprenant en plus du cannabis. Donc c'est ça qui les a tués.
Donc cette huile dans les poumons, là, c'est pas bon quand
évidemment.
On inhale, c'est
et
ça.
Donc, ouais. Et on comprend bien l'histoire de pneumopathie lipidique. Lipidique, oui. C'est la graisse, et donc forcément, ça donne du gras, et ça a tué finalement les cellules et les bronches des personnes qui, en fait, ont juste mal utilisé leur cigarette électronique. Le problème, c'est pas la cigarette, c'est ce qu'on a rajouté dedans.
Et alors, est-ce qu'on doit s'inquiéter en France, du coup?
Non, on doit s'inquiéter du tabac. Le tabac, c'est 73 000 morts par an. C'est la seule drogue légale qui tue un utilisateur sur deux. Donc si on doit avoir peur de quelque chose, c'est de la cigarette. Les données actuelles montre que la cigarette électronique, évidemment que c'est pas l'idéal, mais c'est quand même mieux que la cigarette. Et donc, si on veut arrêter de fumer, il faut plutôt prendre ça. En revanche, c'est pas un mode d'entrée dans la consommation du tabac.
Faut pas que les jeunes commencent à la vapoter comme ça,
exactement.
Sans avoir jamais fumé.
C'est une désescalade, finalement, d'une addiction. Parce
une
que
aide
le tabac...
au sevrage tabagique. Mais est-ce que c'est efficace pour arrêter de fumer?
Oui, ça a été prouvé. Initialement, il y a eu pas mal de polémiques, et maintenant, on a un petit peu de recul. La cigarette électronique est deux fois plus efficace que les substituts nicotiniques. Donc, c'est une méthode parmi tant d'autres. Certains n'en ont pas besoin, mais d'autres en ont besoin, et on nous dit, il y a de la nicotine. Oui, ok, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses dans une vraie cigarette, du goudron, de l'arsenic. Donc, quelque chose qui va vous tuer. Donc, en clair, si vous avez une cigarette électronique que vous avez arrêté de fumer, c'est très bien. Il faudra envisager dans un second temps d'arrêter la cigarette électronique, tout simplement.
En tout cas, ne pas s'inquiéter, effectivement, de ces cas qui ont eu lieu donc, aux États-Unis. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils. Et tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour, le docteur Dominique Valto-Couenet. Elle est chef du département de cancérologie de l'enfant à l'Institut Gustave Roussy.
15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour docteur Valto.
Bonjour.
Alors d'abord je précise que le mois de septembre c'est le mois de mobilisation au cancer pédiatrique. L'idée c'est d'en parler, de sensibiliser la population aux enjeux du futur pour soigner encore plus d'enfants atteints par un cancer. Mais d'abord, le cancer chez l'enfant justement, il faut le rappeler, ça reste la première cause de mortalité par maladie aujourd'hui chez l'enfant.
Oui, en effet, C'est une maladie rare, mais c'est une maladie qui tue et qui est donc la première cause de mortalité. C'est pour ça que, par maladie chez l'enfant de plus de 1 an. Et c'est pour ça qu'il faut continuer de progresser et continuer de se battre pour faire mieux, pour guérir toujours plus d'enfants.
Alors aujourd'hui, il y a malheureusement effectivement 500 enfants à peu près qui décèdent chaque année à cause d'un cancer. Mais il faut dire aussi qu'heureusement aujourd'hui, et ça c'est une bonne nouvelle, on les guérit de mieux en mieux, les enfants atteints d'un cancer. Il y en a combien qui s'en sortent en moyenne aujourd'hui ?
À l'heure actuelle, les derniers chiffres montrent qu'il y a 83% des enfants qui vont guérir de leur maladie, ce qui est en effet une bonne chose. Mais ça veut dire aussi qu'il faut encore travailler pour guérir les autres qui, à l'heure actuelle, ne peuvent pas guérir de leur maladie.
Jimmy ?
Et par exemple, il y a 50 ans, le taux de survie ou de guérison n'était pas aussi bon ?
Ah non, pas du tout. On est parti dans les années 50, à l'époque où le premier centre de pédiatrie, d'oncologie pédiatrique est né à Gustave-Roussy à Villejuif, de 20% de survie à une époque où les seules armes thérapeutiques étaient la chirurgie. Puis progressivement a été introduite la radiothérapie, avec les séquelles que ça induit, et puis la chimiothérapie qu'on a appris de mieux en mieux à manier, et ça a permis de passer de ces 20% de survie catastrophique au taux actuel de 83%. Mais il faut continuer de faire mieux.
Et aujourd'hui, donc, on disait 500 enfants décèdent encore chaque année. C'est pour ça qu'on fait cette émission aujourd'hui. Hein. Ça veut dire que pour eux, on n'a pas de solution médicale aujourd'hui, pas de médicaments pour ces enfants.
Alors, il y a des enfants pour lesquels on a des solutions très temporaires, mais il y a encore des maladies, comme par exemple le gliome infiltrant du tronc cérébral, pour lequel on sait...
C'est un cancer du cerveau, hein, c'est ça.
C'est un cancer du cerveau, excusez-moi. Et c'est un cancer qu'on ne sait pas guérir. Il n'y a pas d'enfant à l'heure actuelle qui a cette maladie, qui a guéri dans le monde entier.
Et donc pour ça, il faut encore
il faut trouver d'autres solutions, en effet.
Et pour ça, il faut de l'argent. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour passer ce message. En septembre, on parle du cancer de l'enfant. Et toute l'année d'ailleurs, hein, il faut se mobiliser sur Europe 1. On soutient cette campagne, guérir le cancer de l'enfant au 21e siècle. Et pour participer, pour faire un don, c'est très simple. Envoyez un SMS au 92 250 en envoyant le mot « enfant hein, ». Vous faites un don de 5 euros. En envoyant « enfant 10 », vous faites un don de 10 euros, ainsi de suite. Le montant sera directement prélevé sur votre facture de téléphone. Tout ça, juste grâce à un SMS, vous pouvez donc sauver demain, aider à sauver demain plus d'enfants atteints par un cancer. Vous restez avec nous, professeur Dominique Valto. Dans un instant, on va faire un point sur la recherche en cancérologie pédiatrique.
Europe 1.
Dans un instant, on va parler donc des progrès tout proches pour soigner demain encore plus d'enfants atteints de cancer. Mais pour cela, il faut se mobiliser. La recherche a besoin de nous pour mieux comprendre ces maladies et trouver de nouveaux traitements. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre nouvelle émission Santé Bien-être. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Dominique Valto-Couenet, chef du département de cancérologie de l'enfant à l'Institut Gustave Roussy. Alors aujourd'hui, une émission spéciale, vous l'avez compris, dans laquelle on met un coup de projecteur sur les cancers pédiatriques. Le mois de septembre, c'est le mois de sensibilisation sur cette cause. L'Institut Gustave Roussy promeut la campagne « Guérir le cancer de l'enfant au 21e siècle ». Et on écoute justement le papa de Noé, ce petit garçon qui a été emporté par le cancer à l'âge de 10 ans. Il est le symbole de cette campagne « Septembre en or » contre les cancers pédiatriques. On écoute son papa Frédéric Lemos, qui était l'invité hier soir de Wendy Bouchard sur Europe 1.
On est allé dans plusieurs pays voir des équipes médicales pendant tout ce temps-là. Cette tumeur, on ne l'a jamais laissée tranquille. Dès qu'il échappait, on avait un autre traitement de côté. Et manifestement, dans certaines proportions, ça lui a servi, puisque sa longévité ne peut s'expliquer que comme ça. Il n'avait pas un métabolisme particulier. Après son décès, il ne fallait pas que le wagonnet reparte dans le sens de la pente, si je puis dire. Il fallait continuer à pousser. Comme c'est le seul enfant quasiment qui a vécu aussi longtemps, c'est le seul qui a été biopsié deux fois de son vivant. Mmh. Et donc, il y a là une mine d'éléments, une source d'éléments pour la recherche qui est absolument importante. Et il faut transformer l'essai, il faut l'étudier.
Et donc, pour transformer l'essai, pour soutenir cette campagne, c'est très simple. Envoyez un SMS au 92 250 en envoyant le mot « enfant ». Vous faites un don de 5 euros. Pour 10 euros, par exemple, vous envoyez le mot « enfant 10 », etc. La recherche a besoin de nous tous. Les dons seront versés à l'Institut Gustave Roussy. Alors justement, grâce à ces dons, docteur Dominique Valto, pour qu'on comprenne bien, vous en faites quoi, vous, les chercheurs de cet argent ? Tout coûte très cher, hein, c'est ça le problème ?
Oui, tout coûte très cher. Et pour donner quelques exemples, le travail d'une heure d'une attachée de recherche clinique pour collecter des données, c'est 30 euros. Pour extraire l'ADN d'une tumeur et après l'analyser, c'est 100 euros. pour faire le séquençage, c'est-à-dire comprendre tous les gènes dont la tumeur est porteuse, c'est 1 000 euros. C'est beaucoup d'argent.
Très cher, effectivement. Alors cette campagne, elle a 4 objectifs. Et le premier, c'est de mieux connaître le système immunitaire des enfants. On ne le connaît pas encore suffisamment ?
Non, on ne le connaît pas suffisamment, en effet. Alors d'une part, les tumeurs de l'enfant sont différentes des tumeurs de l'adulte. Et la façon de se battre des enfants, leur système immunitaire est différent. Et c'est pour ça que les médicaments qui ont été une révolution pour les cancers de l'adulte ne sont pas ou trop peu efficaces pour les enfants. Donc mieux comprendre le système immunitaire, nous pensons vraiment que ce sera absolument essentiel pour se battre différemment contre ces tumeurs.
Jimmy ?
Et donc en termes de chimiothérapie classique, globalement on a fait un peu le tour. C'est-à-dire qu'il faut créer de nouvelles thérapies pour essayer de guérir les 500 enfants qui décèdent encore chaque année.
Oui, tout à fait. On a utilisé vraiment la chimiothérapie, ça a permis de faire ces progrès dont on a parlé tout à l'heure. On a appris à la manier, mais on sait que là vraiment on est à la limite de ce qu'on peut faire et on ne progressera pas avec les mêmes médicaments. Il faut utiliser d'autres moyens, soit de booster le système immunitaire du patient ou d'utiliser d'autres types de médicaments si on veut gagner sur les maladies qu'on ne sait pas bien contrôler pour le moment.
Et justement dans ces maladies qu'on ne sait pas bien contrôler ni guérir, je crois qu'il y a les tumeurs cérébrales notamment, dont était atteint justement le petit Noé, qu'on voit sur la tour Montparnasse et qui est la tête d'affiche de cette campagne. C'est un gros point noir, ces tumeurs cérébrales chez les enfants, encore on n'y arrive pas aujourd'hui.
Les tumeurs cérébrales posent deux types de problèmes. D'une part, leur contrôle, les guérir, et donc on l'a dit, ces gliomes, ces tumeurs qui infiltrent le cerveau des enfants, pour ceux qui sont situés dans certaines localisations, on ne sait pas du tout les guérir. D'autre part, ça pose aussi la question des conséquences du traitement et du devenir de ces enfants. Pour ces deux raisons, il faut développer de nouvelles stratégies et ça fait partie des axes de réflexion.
Et pour le gliome justement infiltrant, donc cette maladie du cerveau, je crois qu'à l'Institut Gustave Roussy, il y a eu des progrès là tout récemment.
Oui, en effet, il y a eu 2 publications extrêmement importantes faites par l'équipe du docteur Jacques Grill, qui est oncologue pédiatre à Gustave Roussy, sur les gliomes infiltrants du tronc cérébral, pour montrer quelle était la façon d'échapper au traitement, pourquoi ces tumeurs résistaient au traitement, et trouver des cibles pour avancer, pour contourner ce problème et mieux les traiter. Donc vraiment une avancée importante dont on espère qu'elle nous permettra de faire des progrès.
Merci Dominique Valto. On n'en a pas terminé avec nous, vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on va parler notamment de génétique. Un enfant, ça ne fume pas, ça ne boit pas. Alors ça aussi, mieux comprendre pourquoi certains enfants sont subitement atteints par un cancer. C'est l'un des gros enjeux de la recherche. On y revient tout de suite, restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Dominique Valto-Couenet, chef du département de cancérologie pédiatrique à l'Institut Gustave Roussy. Alors aujourd'hui avec vous, on fait le point sur l'état de la recherche en faveur des cancers de l'enfant et je crois qu'un autre des enjeux majeurs pour soigner plus d'enfants, plus d'ados demain, c'est la génétique.
Oui, en effet, mieux comprendre pourquoi ces enfants ont un cancer, c'est une question extrêmement importante et c'est un des axes de la campagne que soutient Frédéric Lemos.
Pourquoi la génétique ?
Oui, parce que finalement, on ne connaît pas encore toutes les causes des cancers. La génétique, ça en fait partie finalement ? Il y a un caractère ou héréditaire de la maladie ?
En tout cas, pour certaines tumeurs, c'est le cas. On sait qu'environ 10% des cancers de l'enfant sont liés à un facteur génétique et très probablement, excusez-moi, plus que ça. Et depuis un certain nombre d'années, dans des familles où la survenue de cancer était tout à fait inhabituelle chez les parents, frères et sœurs, cousins, etc. On a accumulé des informations cliniques du matériel tumoral et sanguin des parents et des enfants. Et grâce à de nouveaux outils, nous allons réexplorer ces familles pour mieux comprendre quels sont les gènes en cause, quel est le risque génétique qui provoque la survenue de ces cancers.
Mais du coup, parce que là, vous dites 10%, c'est-à-dire qu'il y a 90% d'autres causes qu'on ne connaît pas alors, en fait.
Pour le moment, il y a 90% d'autres causes
ça
qu'on ne connaît pas.
Parce qu'on parle beaucoup des perturbateurs endocriniens. Alors, certains disent qu'on exagère, d'autres disent que c'est le mal absolu qui serait responsable de toutes les maladies. Mais quelle est votre... Alors, je ne sais pas donner votre hypothèse.
C'est probablement une combinaison de facteurs de toute façon. Et c'est là que l'immunité, l'immunologie du patient joue probablement aussi un rôle important. plus d'autres facteurs qui resteront à trouver.
Et comprendre mieux la génétique, donc vous parliez de ces familles pour lesquelles vous disposez de matériel tumoral et que vous allez réanalyser pour mieux connaître, ça va servir à quoi concrètement de mieux connaître cette génétique ?
Mieux connaître la génétique, c'est d'une part anticiper, prévenir éventuellement la survenue d'autres tumeurs, parce que dans ces familles, éventuellement, les enfants vont faire plusieurs événements oncologiques, et donc c'est important de faire de la prévention. Et puis c'est important parce que dans certaines situations, le fait d'avoir cette prédisposition génétique va conduire à modifier le traitement. Certains médicaments vont être plus toxiques que pour les autres patients et participer à la survenue d'autres maladies. Et d'autre part, certains traitements seront plus efficaces pour ces patients. Donc ça nous guide pour aider la survenue d'une deuxième tumeur, aider le reste de la famille pour la prévention, mais aussi pour mieux traiter ces patients.
Alors un troisième axe important de cette campagne, hein, guérir le cancer de l'enfant au 21e siècle, c'est mettre en place des programmes de recherche pour limiter ou mieux soigner les séquelles de ces enfants qui sont soignés pour un cancer.
Oui, en effet, il est important de guérir ces patients, mais la qualité de vie des enfants guéris devenus adultes, c'est extraordinairement important. Et faire en sorte que le traitement ait le moins d'impact possible sur la qualité de vie de ces adultes traités dans l'enfance est absolument essentiel. Nous avons appris malheureusement que la chimiothérapie pouvait induire des conséquences à long terme.
Par exemple ?
Mieux les connaître, oui, comme par exemple le risque cardiovasculaire qui est plus élevé chez ces patients.
Bon, les pauvres, ils ont été traités pour un cancer et en plus, il y a d'autres complications qui peuvent survenir plus tard.
C'est, oui, exactement.
C'est important de savoir ça. Oui.
Et donc une toxicité cardiaque qui mérite là aussi prévention, information pour éviter des accidents ultérieurement. La fertilité est un grand sujet. Guérir, c'est bien. Pouvoir avoir des enfants quand on est guéri, c'est quand même merveilleux. Et faire en connaître les médicaments qui induisent ces infertilités, mettre en place des programmes pour éviter cette infertilité, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important.
Jimmy ?
Et il y a aussi les effets secondaires sur le très court terme, comme les nausées, les vomissements, la perte de poids, la perte de cheveux. Ces éléments qu'on retrouve aussi chez l'adulte. Là aussi, on n'a pas fait beaucoup de progrès encore pour le confort, où finalement, c'est quand même mieux toléré que ce n'était il y a 15-20 ans.
On a fait quand même énormément de progrès dans le contrôle, notamment des troubles digestifs dont vous parlez, nausées, vomissements, qui étaient absolument terribles et qui perturbaient beaucoup la vie de ces patients. C'est pas encore parfait, mais je pense que là, on a vraiment beaucoup, beaucoup changé la qualité de vie en cours de traitement. On n'a pas du tout modifié, par exemple, l'impact sur l'alopécie, la perte des cheveux. Et ça fait partie des problèmes en cours de traitement. On sait mieux gérer quand même la toxicité de ces traitements en période aiguë. Et on continue de progresser, mais ça s'est beaucoup, beaucoup amélioré.
Alors, le dernier pilier de cette campagne, c'est de récolter de l'argent pour faciliter le parcours de soins de ces enfants et de leurs proches, leur famille, leurs parents, leurs frères et sœurs, en mettant au point de nouveaux outils d'information plus modernes. Ça veut dire quoi, ça, aujourd'hui ? Aujourd'hui, vous n'avez pas ce qu'il faut à la disposition ?
Disons qu'on a beaucoup travaillé par le passé à des petits livrets, à des flyers, et on sait bien que ce n'est probablement pas la meilleure façon de communiquer. À l'heure actuelle, la vidéo et tout ce type d'informations beaucoup plus visuelles permet de mieux communiquer, en particulier avec les enfants et les adolescents. Donc mettre en place des façons de communiquer nouvelles qui permettront réellement de faire un partenariat avec enfants et parents pour que la prise en charge en cours de traitement soit la meilleure possible, c'est vraiment essentiel. Aussi.
Jimmy ?
Et puis il y a aussi un environnement un peu, on va dire, économique quand même. Lorsqu'un enfant est malade, c'est finalement tout un équilibre qui est perturbé. Est-ce que là aussi, on a un peu amélioré les choses ? Parce que les parents essaient parfois de s'arrêter, mais ils ne peuvent pas toujours. Il faut quand même payer les factures. Est-ce qu'on arrive à pouvoir les aider ? Est-ce qu'il y a des choses qui existent ? Est-ce que l'enfant, par exemple, qui est hospitalisé plusieurs mois, ça veut dire plus de scolarité ? Est-ce qu'on se dit, bon, bah, finalement, on verra l'année prochaine ? On arrive quand même à les faire participer, avoir un peu de vie sociale, un peu de vie culturelle parfois, ou culturelle, peu importe. Est-ce que là aussi, on fait des progrès encore ? On se dit, bon, chaque chose en son temps, on se concentre sur la maladie, le reste, c'est un peu du second plan.
Non, le reste, c'est pas du tout du second plan. C'est absolument essentiel de garder le lien pour l'enfant et sa famille avec le reste du monde, avec les projets qu'ils avaient auparavant et avec la façon de vivre qu'ils avaient auparavant. C'est une prise en charge globale de l'enfant, de la fratrie et de sa famille pour que l'impact du traitement soit le moins lourd possible en cours de traitement. il y a une école à l'hôpital, il y a des liens avec les écoles vraies de ces patients, il y a un environnement ludique et culturel qui est mis à disposition pour que ce soit le moins lourd possible. C'est très très important pour que ces enfants passent à travers la maladie en gardant leurs objectifs et en restant eux-mêmes.
Et parfois, les parents peuvent rester aussi auprès des enfants. Il y a des lits, des structures qui existent.
Oui, alors il y a des structures. Les parents peuvent rester dans la chambre. Nous, à Gustave Roussy, il y a un hôtel des parents sur le site, à l'étage du service. Et il y a une maison des parents pour que l'ensemble de la famille puisse être présent. Et en ce qui concerne les soutiens, il y a des progrès qui sont faits pour permettre à un des parents d'être auprès de son enfant en cours de traitement. La loi qui a été votée en décembre dernier améliore ces conditions d'accès et il faudra sûrement continuer.
Merci beaucoup, professeur Valto-Kouané, d'être venu sur notre plateau. Grâce à vous, on comprend mieux pourquoi la recherche sur les cancers pédiatriques a besoin de notre mobilisation à tous. Pourquoi soigner, pour pouvoir soigner plus d'enfants demain, il faut beaucoup d'argent et c'est possible. Je rappelle qu'on peut tous aider. Merci encore, docteur Valto.
Europe 1.
Merci à vous. Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien. Et cette semaine, on s'est intéressé au bâillement. Pourquoi baille-t-on? Pourquoi c'est si contagieux d'ailleurs? On vous dira tout. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie
Votre
Gomez.
Émission santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Cette semaine, on parle des bâillements, ce n'est pas vraiment un bobo d'ailleurs, mais pourquoi baille-t-on? Pourquoi est-ce si contagieux? Parfois, justement, notre reporter Benjamin Lévesque a été vous donner la parole sur le sujet. On écoute son micro-trottoir.
Voilà, un bon bâillement.
Entre 14 et 15 heures après le repas.
Plus le soir, fatalement, en fin de journée. On s'étire, on se détend, et puis on baille.
Un petit relâchement, oui, ça fait du bien.
C'est mal poli. Si on baille pendant une réunion, c'est... voilà.
Dans les transports en commun ou autre, on peut effectivement avoir un bâillement qui nous échappe. Et puis bon, on a l'impression que les gens parfois nous regardent bizarrement.
Enfin, c'est souvent associé à une envie de se reposer, de dormir.
Je sais que si j'ai une personne en face de moi qui baille, C'est mécanique, ou un réflexe, on fait pareil. Ou...
Alors certains disent que c'est un signe d'ennui, d'autres disent que c'est un signe de mauvaise digestion.
Le corps a un réflexe, si on respire un peu trop peu ou pas assez, ou qu'on n'est pas bien oxygéné, il déclenche un bâillement pour qu'on fasse une grande respiration. Je ne suis pas sûr de cette théorie.
Alors Jimmy, pourquoi on baille concrètement? D'ailleurs, il n'y a pas que nous, hein, les êtres humains qui baillons. Je crois que les animaux aussi, la plupart en tout cas, les chiens, les chats, ça c'est sûr. Moi j'en ai déjà vu bailler. Mais à quoi ça sert de bailler finalement?
Alors bon, certains pensent que ça sert à oxygéner le cerveau.
Oui, on a entendu.
Non,
là.
Pas du tout. Certains, alors on a entendu, après un repas, on peut bailler. Donc on verra après. Oui, c'est possible, mais finalement, ce n'est pas tellement le repas qui fait bailler. C'est l'effort du repas qui fait qu'on baille. Hippocrate, le père de la médecine, pensait déjà que cette contraction musculaire involontaire permettait d'évacuer la fièvre, comme si on pourrait évacuer la fumée d'une cheminée.
C'était bon, faux, ça aussi, j'imagine.
Là, c'était faux, ça aussi, malheureusement, même si l'image est plutôt sympa, je trouve.
Ouais, donc Hippocrate, c'est ça?
Hippocrate, avec le père de la médecine, c'est pas moi.
Non,
c'est lui,
pas vous, oui. C'est pas votre père non plus, Hippocrate, non. Très bien. Et donc, ça sert à quoi finalement de bailler si tout ça c'est faux? En réalité, ça sert à quoi?
Ça reste encore assez mystérieux. On a quelques hypothèses. Alors évidemment, quand on s'ennuie, on baille.
Ouais.
Lors d'une réunion, ou lorsqu'on entend un ami ou une amie, une certaine Mélanie, nous raconter des histoires.
Non, là on baille jamais, on s'ennuie pas.
Non, on baille pas, non. Mais c'est un signe d'ennui ou parfois de fatigue, tout simplement. On sait aussi que ça pourrait augmenter notre vigilance, parce que finalement, le fait de bailler permettrait de réguler un peu la température pour justement se stimuler un peu plus.
Hop,
et
on baille, ça repart.
On baille et puis ça repart. Mmh. Mais aussi, ça sert aussi notamment lorsqu'on est en avion ou lorsqu'on a le nez bouché, on permet de rééquilibrer les pressions.
Tout à fait, oui.
On appelle ça parfois la manœuvre de Valsalva. Lorsqu'on avale fort notre salive, on bouche le nez, et bailler permet aussi de libérer la pression.
Et quand on baille, parfois ça fait clac dans les oreilles.
Et en fait, on évacue la pression, on a une petite trompe entre le nez et l'oreille, qui s'appelle la trompe de Stache. Et donc lorsqu'on baille, on libère la pression et on débouche les oreilles. Donc ça peut aussi aider à faire... Lorsqu'on prend l'avion et on a l'oreille bouchée, on peut faire
ça. À libérer les oreilles. Mais pourquoi alors finalement c'est si contagieux? Parce qu'on sait qu'on baille. Moi, si je vois quelqu'un bailler en face de moi, en général, je me mets à bailler aussi. Hein. C'est vraiment le truc, c'est réflexe quoi. Mais
c'est vrai. Alors on dit contagieux. Alors c'est pas aussi contagieux que la petite rhinopharyngite que j'ai en ce moment.
Oui, que je vous ai refilé la semaine dernière.
Oui, exactement. Et que j'ai soigné avec brio d'ailleurs.
Bien sûr, c'est vrai, j'ai beaucoup mieux.
Un vrai docteur. mais en fait, à part nous et les primates, les autres animaux qui baillent, comme les poissons, ce n'est pas par empathie. Alors c'est extraordinaire, les poissons baillent. Mais c'est pas par empathie.
Les éléphants aussi, je crois que j'ai déjà vu un éléphant bailler.
Ah très bien, ouais. Vous avez une vie palpitante.
Bref, l'éléphant c'est pas contagieux. Pourquoi c'est contagieux chez nous?
Et donc en fait, ce serait plus une forme d'empathie et ça permettrait dans une réunion, dans un endroit, de resynchroniser le groupe pour qu'on soit tous un peu sur la même longueur d'onde. On s'ennuie tous, on se rend compte qu'on s'ennuie, donc il est temps à l'interlocuteur de se réveiller et puis finalement peut-être être un peu plus efficace. En tout cas, moi, quand j'ai mené des petites réunions, des choses comme ça,
tout le monde baille.
Personne ne baille. Donc je rigolais, Mélanie, attendez, je suis captivant. Qu'est-ce que je fais là sinon? Donc voilà, ce serait plus un phénomène
de resynchronisation en deux groupes.
Exactement.
Groupe, quoi,
c'est un phénomène de société plus qu'un phénomène contagieux réellement. Et certains, on voit dans des films, dans des séries, ceux qui ne baillent pas sont des psychopathes. Si dans la même pièce, quelqu'un baille avec vous et ne répond pas à ce
baillement. Est-ce que vraiment on baille tous? On est d'accord?
Si on a beaucoup d'empathie. Et donc si on n'a pas d'empathie, un peu comme certains ici,
Moi je baille toujours quand quelqu'un baille. Mais en tout cas, tout le monde baille et on baille au moins 5 à 10 fois par jour. Merci pour ce conseil. On est d'accord qu'il ne faut pas bailler trop fort non plus. Hein. C'est la principale cause de...
Luxation de la mâchoire.
Ah oui,
c'est extraordinaire. Vous avez la mâchoire, vous bavez horriblement. Il faut aller aux urgences pour qu'on vous remette la mâchoire en place comme on vous remettrait une épaule.
Donc on baille, mais pas trop fort. Merci beaucoup Dr Jimmy Mohamed pour tous ces conseils. Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après on se retrouve pour la chronique sexo de l'émission. Aujourd'hui, avec notre sexologue Catherine Blanc, on va parler de la sexualité au fil des ans. Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour à tous les deux.
Alors aujourd'hui, vous allez répondre à la question que nous a posée Léon, qui nous a écrit de Bordeaux, je vous la lis. J'ai 50 ans et suis célibataire depuis une dizaine d'années. J'ai beaucoup de mal à trouver quelqu'un qui me convienne. Je trouve que les adéquations entre deux personnes sont devenues plus difficiles que lorsque j'étais jeune. Qu'en pensez-vous? Alors Catherine, est-ce que les adéquations, comme il dit Léon, entre deux personnes sont plus difficiles effectivement quand on vieillit?
Oui, parce que on a plus de velléité, on a plus d'ouverture sur soi, on a plus de projets pour soi, donc on attend de la part de l'autre autre chose que d'être seulement un corps ou seulement sympathique comme ça dans la cour de la récré. Donc effectivement, on a envie d'avoir des projets, on a envie de, ne serait-ce que le projet de sortir le soir ou le projet de faire l'amour et de donner du sens à la relation. Et donc, de fait, ça demande, ça fait un peu plus exigence. Mmh. Et donc, cette exigence complique effectivement les rapports humains.
Jimmy ?
Et j'en suis un peu loin, mais est-ce qu'il y a un cap à la cinquantaine ? Parce qu'on parle souvent
de
la crise de la
trentaine.
Arrêtez
de dire que vous êtes jeune, on le sait.
Toujours en train de se vanter, celui-là.
Mais je suis très vieux dans ma tête encore, mais ma date de naissance montre encore que j'ai encore des réserves. Mais on parle de crise de la trentaine, quarantaine. Est-ce qu'il y a quelque chose à 50 ans sur le plan sexuel qui fait que c'est plus difficile ou je ne sais pas
Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a l'idée que l'on se fait d'avoir 50 ans. Effectivement, si on se sent vieux, de fait, on part avec un certain handicap parce qu'on se dit, serais-je à la hauteur ? Est-ce que je vais intéresser l'autre, où j'ai passé l'âge de ces conneries. Enfin, tous ces trucs qu'on se met dans la tête et où on se sclérose, en fait.
Même en étant avec le même partenaire? Ou est-ce que c'est valable seulement si on a une nouvelle relation et puis finalement on remet les compteurs à zéro? Ou même en couple, on peut se dire tout d'un coup à 50 ans, c'est plus difficile, je suis moins bien, ou au contraire...
Alors, à 50 ans, pour un homme, ça correspond... Alors, les femmes, c'est souvent autour de 40 ans que se posent des tas de questions parce que c'est le moment où elles vont lâcher la fertilité. Les hommes, ils sont plus tranquilles sur ce sujet de la fertilité jusqu'à leur dernier souffle, en fait. Hein. Bien qu'aujourd'hui, les
hommes... Vaut mieux pas attendre le dernier souffle, quand même, petit conseil.
Conseil santé du jour.
Non, mais... Et puis, en plus, aujourd'hui, la fertilité masculine est...
Beaucoup d'hypofertilité.
Exactement. Mais le fait est que, donc, si les hommes sont un peu moins préoccupés par ce sujet, ce qui les préoccupe, c'est leur position sociale, hein, le pouvoir. On a tous une idée de pouvoir. Les femmes, c'est aussi dans leur pouvoir de faire des bébés. Les hommes, c'est dans leur pouvoir social. Et quand on a 50 ans, on voit bien quand même que l'accueil professionnel n'est pas le même, que la peur de perdre un job et d'en retrouver un autre si on a 50 ans n'est pas le même. Donc, de fait, les hommes s'interrogent beaucoup plus et ont besoin de vérifier par des tas de moyens leur pouvoir encore. Mmh. La sexualité en fait fondamentalement partie. Mais du coup, on se sent plus fragilisé potentiellement, sans parler bien sûr de la physiologie qui peut peiner, l'andropause qui peut sonner, non pas le glas, mais sonner la difficulté de la relation.
Et justement, Léon, donc, il dit qu'il a une cinquantaine d'années, qu'il est célibataire. Est-ce que c'est pas ça aussi qui est plus difficile, finalement? À 50 ans, en général, on est marié depuis longtemps, avec la même femme ou le même homme. Est-ce que le fait qu'il soit célibataire à 50 ans, c'est ça qui rend la chose plus difficile aussi?
Moi, je pense que le célibat, c'est une chose formidable puisque c'est plein de possibles. Donc, effectivement, la relation, au contraire, c'est la créativité qui peut naître de cette situation-là. Sauf à s'être enquisté dans l'idée du célibat, avoir
il
pris ses bonnes...
Il n'a pas l'air heureux, Léon. Il nous dit, j'arrive pas à trouver la bonne personne. Ça veut dire qu'il la cherche, quand même.
Oui, mais il s'est peut-être fait son petit monde à lui et ce petit monde qui laisse peu de place à l'autre. C'est-à-dire que souvent, le célibat est une façon d'être avec soi, entre soi et soi, avec une difficulté à partager son territoire, à sortir aussi de ces petites habitudes sclérosées de je mange à telle heure, ou je vais à tel endroit, ou je regarde, ou je suis passionnée par ça. La relation oblige à l'ouverture et à un mouvement de soi.
Jimmy ?
Je suis angoissée parce que j'ai déjà ces petites habitudes sclérosées, je fais toujours à la même heure, voilà, bon, mais j'ai que 32 ans. Est-ce que finalement c'est normal que la sexualité évolue avec le temps ? Je me souviens très bien que vous avez dit que les femmes atteignaient l'orgasme à 40 ans.
Celle-là, il l'a retenue, nous la sort à chaque émission.
C'est un chiffre très facile avec les auditeurs.
Ils se frottent les mains, ils
disent vivre plus que 8 ans. Ils sont tous très, très, très impatients de ces 40 ans. Mais est-ce que finalement, c'est la même chose chez les hommes ? On ne fait pas l'amour de la même façon de 25 ans qu'à 50 ans ?
Oui, on ne fait jamais la même façon de toute façon à tous les temps de sa vie. Il y a des moments où on a besoin de beaucoup d'arrogance pour faire l'amour, pour compenser ses doutes, ses incompréhensions ou ses découvertes. À d'autres moments, on sait qu'on ne sait pas. Et du coup, à la fois, on peut être fragilisé et à la fois, on est plus tranquille. Donc, 50 ans, c'est peut-être un moment, au contraire, de grande paix parce qu'on prend un peu de recul par rapport aux choses, ou au contraire un moment de grande anxiété parce que justement on a peur de ne pas avoir une érection fiable, de ne pas avoir une éjaculation qui arrive de façon opportune. Et du coup, c'est cette idée qui pose problème dans la relation plus que la réalité physiologique.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On se retrouve évidemment demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, une émission dont le grand dossier du jour sera consacré à l'arthrose, à l'occasion de la journée mondiale contre cette maladie. On fera le point sur ce qui fonctionne ou pas. Mais tout de suite, comme tous les jours, on retrouve Mathieu Noël et son équipe sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. La sexualité au fil des ans, j'aime quand vous abordez des enjeux importants pour nous deux, pour notre couple, même si ça me gêne un petit peu. Vous savez que je suis pudique. En tout cas, restez avec nous. L'équipe sauvage arrive. On ne parlera pas de sexualité, mais ça sera quand même très excitant puisque Dave sera notre invité.
Merci beaucoup Mathieu. Bonne émission et surtout restez sur Europe 1. Hein.